décrit ainsi ce déploiement liturgique du carême dans la tradition orthodoxe, ce n'est pas simplement pour donner une information qui attirerait une curiosité, ni pour éveiller en vous une nostalgie qui serait stérile, puisqu'on ne peut pas avoir tous ces rites chez nous actuellement, mais il ne faut pas oublier que nous sommes le corps du Christ, que toutes nos églises sont solidaires les unes des autres, et que ce qui se pratique dans les pays orthodoxes, où la liturgie, le culte peut avoir tout son développement, tout cela est nôtre. Et en le connaissant, en y intéressant, en essayant à notre mesure d'en vivre, en lisant les textes qui sont utilisés dans ces offices, nous pouvons ainsi nous unir à ce qu'ils célèbrent dans tout le monde orthodoxe. Nous sommes vraiment un seul corps dans le Christ, et de nous inscrire à cette liturgie orthodoxe du carême, d'y entrer dans la mesure du possible, ne serait-ce que par la lecture de quelques textes, eh bien, tout cela nous permet de participer vraiment à la vie de l'Église, d'y participer, d'en profiter pour notre compte. Il existe deux livres qui sont excellents, deux petits livres d'ailleurs qui ne sont pas très chers, qui expliquent remarquablement, bien que forcément un peu sommairement, mais tout de même c'est très intéressant, cette liturgie du carême et aussi de la grande semaine, de la semaine sainte. C'est le grand carême du père Alexandre Schmemann, qui est publié dans la collection Spiritualité orientale de Bellefontaine, et le petit livre sur le mystère pascal, donc la grande semaine, la semaine sainte et la fête de Pâques, par le père Alexandre Schmemann également et Olivier Clément, toujours dans la même collection. Ces deux petits livres sont très précieux parce qu'ils peuvent aider chaque fidèle orthodoxe, même éloigné de l'Église, de vivre un peu à l'unisson du cœur de l'Église durant toute cette période. Le temps général du carême, de ces 40 jours qui précèdent la fête de Pâques, est, et ça dans toutes les églises, aussi bien dans les églises de tradition byzantine, orthodoxe, dans les églises de tradition latine, c'est d'être une préparation à Pâques. Dans l'Église ancienne, dans les premiers siècles, cette préparation à la fête de Pâques avait un caractère particulier, car la fête de Pâques, plus exactement le soir du samedi saint, du grand samedi, le début de la vigile pascale, était le moment où avaient lieu les baptêmes d'adultes à l'époque, dans l'Église. À l'époque où la plupart des membres de l'Église étaient des convertis qui entraient dans l'Église à l'âge adulte. Et le carême était la période de préparation immédiate à cette entrée dans l'Église par le baptême pour ces adultes, et toute la communauté chrétienne s'associait à cette préparation ainsi des futurs nouveaux baptisés. C'est que le catéchuménat durait en général 3 ans, il y avait 3 années de préparation ici au baptême, mais c'est durant le dernier carême qui précédait la fête de Pâques que ceux qui allaient être baptisés étaient préparés d'une façon beaucoup plus intense par des catéchèses, des prières, des réunions, et toute la liturgie du carême des 4e, 5e siècle, à la grande époque patristique, a été très marquée par cette préparation au baptême. Il y a encore, dans notre rite orthodoxe actuel, certains textes dont la présence s'explique par ce souci de révéler le sens du baptême, de nous y préparer. Par exemple, il y a quelques jours, nous avions la lecture, la liturgie, de la guérison de l'aveugle né, n'est-ce pas, où le Christ ouvre les yeux de l'aveugle, guérison de sourds, aussi où le Christ ouvre les oreilles, et tout cela évoque cette illumination baptismale où le Christ vraiment ouvre les yeux du nouveau baptisé pour qu'il puisse contempler la gloire de Dieu, qu'il puisse comprendre le mystère de la croix et la gloire de la croix et la résurrection, ses oreilles pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu, tous ces miracles de guérison qui étaient largement employés comme texte liturgique, comme lecture liturgique dans l'Église ancienne, faisait partie de cette préparation au baptême. Et dans la nuit pascale, les nouveaux baptisés participaient vraiment pleinement à la mort et la résurrection du Christ
dans le rite baptismal lui-même. Et vous savez que le baptême, comme c'est aujourd'hui encore la pratique dans l'Église orthodoxe, était inséparable de la chrismation, de la confirmation et de l'Eucharistie. Et le mot baptisé, donc, passait par la piscine baptismale, mourait, ressuscité avec le Christ par cette immersion dans l'eau baptismale, puis était marqué du sceau de l'Esprit-Saint, et ensuite participait à l'Eucharistie. Mais avec le développement de l'Église, l'ère constantinienne, de plus en plus les familles sont devenues des familles chrétiennes où les enfants étaient baptisés dès leur jeune âge, et le carême a perdu, surtout à partir du VIe siècle, un peu ce caractère de préparation immédiate au baptême. En Occident, dans la liturgie latine ancienne, même à l'époque où l'Église d'Occident était en communion avec les églises de langue grecque, la liturgie a peu évolué ensuite, et ce caractère de préparation baptismale est malgré tout resté très marqué dans les textes liturgiques. Le carême latin, tel qu'il était dans la liturgie romaine traditionnelle, depuis les premiers siècles, a gardé ce caractère de préparation au baptême d'une manière plus caractérisée que dans la liturgie orthodoxe. Dans la liturgie orthodoxe, alors, l'accent était mis plutôt sur la préparation de l'ensemble de la communauté des fidèles à la fête de Pâques. Car si, comme nous le disions dans une autre réunion, chaque dimanche est une Pâque hebdomadaire, chaque dimanche nous célébrons la Pâque, chaque dimanche nous célébrons la résurrection du Christ, d'une façon bien sûr beaucoup plus plénière encore, c'est dans la fête de Pâques que chaque année, la communauté chrétienne et chaque chrétien entre à la fois dans une guerre de mort et de résurrection du Christ. Que nous mourrons à tout ce qui reste en nous de péché, d'attache à ce monde, au sens péjoratif du mot, pour vivre davantage de la vie du Christ. Nous commémorons la résurrection du Christ, mais pas comme un simple événement du passé, elle est de nouveau présente pour nous, pour que nous puissions vraiment y participer et entrer avec le Christ dans ce monde de la résurrection, dans ce monde de la joie pascale et de la communion plénière de la vie avec Dieu. Et la préparation à la fête de Pâques, ainsi comprise, va avoir pour l'ensemble de la communauté chrétienne un caractère pénitentiel, au sens que le mot de pénitence avait dans l'Église ancienne, non pas quelque chose de négatif, de péjoratif, si je puis dire, mais le sens d'une participation par l'effort personnel à la passion du Christ. Donc pour ressusciter avec le Christ, eh bien, il faut que nous, qui avons été baptisés, qui sommes déjà morts virtuellement, ressuscités avec le Christ, nous mettions cela en œuvre. Que véritablement, nous mourions à tout ce qui est de l'égoïsme, tout ce qui est du vieil homme, comme dit Saint Paul, pour entrer de plus en plus dans le mystère de la résurrection. Et toute la préparation à Pâques va être une période où, avec l'aide de la grâce de Dieu, mais avec la coopération de notre liberté, nous allons faire un effort de conversion, de retournement de notre esprit pour nous rendre de plus en plus accueillants au Christ et à la grâce de sa résurrection, à la grâce de vie nouvelle qu'il va nous apporter à Pâques. Et tous les textes liturgiques de la liturgie orthodoxe, des offices de carême dans la tradition orthodoxe, vont être marqués très profondément de ce souci de conversion, de repentir, de transformation de notre esprit pour nous préparer ainsi au mystère de la résurrection. C'est une participation à la mort du Christ, mais en même temps déjà tout illuminé de la présence secrète de la résurrection. Car dans la vision de l'Église, on ne peut jamais au fond isoler la mort de la résurrection. La croix est déjà toute remplie de la lumière de la résurrection, elle l'annonce, elle nous y prépare, et la résurrection ne fait que manifester, que faire éclater ce qui est déjà secrètement présent dans la croix. Et c'est pourquoi le carême, dans notre tradition liturgique, ne va pas être tellement triste, je dirais, mais comme je le préciserai tout à l'heure, en reprenant une expression du père Schmemann, il sera tout marqué d'une radieuse tristesse, c'est-à-dire une tristesse parce que nous sommes éloignés de Dieu, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes éloignés du paradis, mais une radieuse tristesse, parce que déjà le Christ a vaincu la mort, parce que déjà le Christ a vaincu le péché, et à travers notre souffrance, à travers notre péché, à travers nos épreuves, eh bien déjà, lui, la lumière de la résurrection. Et ce qu'il faut, c'est de nous plonger vraiment dans l'humilité, dans l'abandon à l'action du Christ en nous, pour que, quand il le voudra, et déjà dans la célébration pascale, cette vie nouvelle puisse se répandre de plus en plus en nous. L'Église orthodoxe agit toujours avec, dans les célébrations liturgiques, du temps liturgique, avec un très grand sens pédagogique. On ne nous plonge jamais directement, immédiatement, au cœur du mystère. Il y a toujours des préparations, il y a toujours une introduction, des parvis que l'on franchit, de manière à ce que, petit à petit, nous soyons pris par la main pour entrer dans toute la profondeur des réalités à laquelle l'Église veut nous initier. Et c'est pourquoi, comme le dit le père Schmemann dans ce petit livre sur le grand carême dont je vous parlais tout à l'heure, bien avant le début proprement dit du carême, l'Église annonce son approche et nous invite à entrer dans la période préparatoire du pré-carême. Ceci d'ailleurs se vérifiait aussi bien dans l'Église de langue grecque que dans l'Église latine. Et la liturgie latine ancienne avait ce qu'on appelait le temps de la Septuagésime, une série de dimanches qui déjà préparait au carême pour y faire entrer progressivement. C'est un trait caractéristique de la tradition liturgique orthodoxe que chaque grande fête ou période liturgique, Pâques, Noël, carême, etc., soit annoncée et préparée à l'avance. Pourquoi ? Parce que l'Église a une profonde perception psychologique de la nature humaine. Connaissant notre manque de concentration et l'effrayante mondanité de notre vie, elle sait combien nous sommes inaptes à changer rapidement, à passer brusquement d'un état spirituel ou mental à un autre. Et c'est ainsi que, longtemps avant le début de l'effort propre au carême, l'Église attire notre attention sur le sérieux de ce temps et nous invite à en méditer le sens. Avant la pratique du carême, sa signification nous est donnée. Cette préparation comprend 5 dimanches consécutifs qui précèdent le carême proprement dit, chacun d'eux étant, avec son évangile particulier, consacré à un aspect fondamental du repentir. Et c'est ainsi que chacun de ces 5 dimanches qui préparent le grand carême, nous faisons mémoire de l'évangile de Zachée. Nous lisons l'évangile de Zachée à la liturgie, mais les textes liturgiques de l'office commentent, nous en font pénétrer toute la richesse spirituelle, à la fois pour attiser en nous le désir de voir le Christ, le désir de voir le Christ qui a fait monter Zachée sur le sycomore, ne soit pour le voir malgré sa petite taille, et puis en même temps nous faire pénétrer dans ce mystère d'humilité de Zachée, ainsi qui adopte une conduite presque ridicule, n'est-ce pas, qui n'hésite pas à se ridiculiser en quelque sorte devant la foule, pour voir le Christ. C'est ce désir de voir le Christ, de voir le Christ ressuscité pour nous finalement, n'est-ce pas, qui oriente déjà tout notre effort de carême. Tout notre effort de carême va être symboliquement de monter sur le sycomore pour voir le Christ, pour voir Jésus ressuscité. Puis le dimanche suivant, nous lisons l'évangile du pharisien et du publicain. Et encore, cet évangile est largement commenté, expliqué, transformé en prière au cours des offices de ce dimanche, avec une insistance évidemment sur l'humilité du publicain, en opposition avec l'orgueil du pharisien qui se vante de son jeûne et qui par là même n'est pas accepté de Dieu. Et avant même de commencer le jeûne du carême, l'Église nous rappelle ainsi que le jeûne et tout notre effort de carême ne peut avoir de valeur et de sens que s'il est l'expression et s'il s'accompagne d'une attitude profonde d'humilité. Ce n'est pas un exploit ascétique dont nous pouvons être fiers, à quoi nous sommes conviés, mais si nous jeûnons, si nous pratiquons toute cette relative austérité du carême, c'est pour humilier notre âme, au contraire. C'est pour nous faire pénétrer dans ce mystère d'humilité qui seul a justifié le publicain. Puis le dimanche suivant, nous lisons l'évangile de l'enfant prodigue. Et là encore, c'est tout le sens du carême qui nous est révélé. Nous sommes tous des enfants prodigues, qui nous sommes éloignés de la demeure paternelle, qui sommes allés dans ce que les terres appelaient la région de la dissemblance, abandonnant, pervertissant notre ressemblance initiale avec Dieu, et nous devons reprendre le chemin de la demeure paternelle. Et le Père est là, attendant notre retour, nous accueillant, immolant le veau gras, allusion pour les pères à l'Eucharistie, déjà, pour fêter notre retour. Et tout notre effort de carême va être ce retour de l'enfant prodigue vers la maison du Père, vers cette célébration eucharistique du dimanche de Pâques. Puis le dimanche suivant, nous lisons l'évangile du jugement dernier, qui attire notre attention sur l'importance de la miséricorde, de l'amour des frères, de l'amour efficace des frères. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous serons jugés sur notre manière d'accueillir le Christ, de servir le Christ dans nos frères, de reconnaître le Christ dans nos membres, qui sont les membres de l'Église et qui sont le Christ pour nous, présent parmi nous. Et le carême, qui a toujours été marqué par le jeûne, a toujours aussi été une période où les chrétiens ont été conviés à l'aumône et à la miséricorde effective envers le prochain. Et c'est ce dimanche-là que l'on cesse alors de prendre, que les laïcs cessent de pouvoir prendre de la viande. On arrête la consommation de la viande ce dimanche, mais on n'entre pas encore dans l'abstinence totale complète du carême, puisque la semaine qui suit, les laitages, les œufs sont encore permis. Puis vient le dimanche du pardon, qui est le dimanche aussi le dernier dimanche où l'on peut consommer les laitages, les œufs et tous ces aliments qui seront supprimés pendant le carême. Et c'est aussi le dimanche où la liturgie fête l'expulsion d'Adam. Ce dimanche-là est marqué surtout par la cérémonie du pardon qui se célèbre au Vêpres, où tous les membres de la communauté chrétienne sont invités à se pardonner mutuellement tous leurs manquements, toutes leurs offenses, pour entrer dans le carême n'ayant plus rien contre qui que ce soit. Si tu veux présenter ton offrande, d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis, les textes liturgiques évoquent l'expulsion d'Adam, son éloignement du paradis, en parallèle d'ailleurs avec l'évangile du prodigue du dimanche précédent, car ce que nous devons vivre pendant le carême, c'est une certaine expérience de notre condition de pécheur, de notre condition d'exilé du paradis. Et les textes des vers sont très très beaux. Voici quelques-uns de ces fichiers, de ces versets. Adam fut expulsé du paradis pour avoir mangé un fruit. C'est pourquoi, assis devant lui, il pleurait et s'écriait « Malheur à moi ! J'ai transgressé un seul commandement du Maître et me voici privé de tous les biens. Ô saint paradis, planté à cause de moi et maintenant fermé pour moi à cause d'Ève, supplie ton Créateur et le mien afin que je puisse à nouveau être comblé de tes fleurs. » Et le Seigneur répond, « Je ne veux pas que ma créature périsse, mais je veux qu'elle soit sauvée et connaisse la vérité. Je ne repousserai pas dehors celui qui vient à moi. » Et plus loin, « Commençons joyeusement le temps du jeûne et livrons-nous au combat spirituel. Gardons notre âme du mal et purifions notre chair, jeûnons de toute passion aussi bien que de nourriture, et que nos délices soient les vertus de l'esprit. » Nous rentrions une sorte de paradis de délices, un petit à petit, mais de délices spirituels, refaisant en sens inverse l'itinéraire d'Adam chassé du paradis. En les pratiquant avec persévérance et amour, puissions-nous obtenir tous de voir la passion vénérable du Christ et, dans la joie spirituelle, la sainte Pâque. Il y a, au cours des vêpres, un long développement sur cette lamentation d'Adam chassé du paradis, qui a été d'ailleurs comme paraphrasée, qui est reprise comme thème d'un long poème par saint Silouane du Moiteux dans ses écrits spirituels. Il y a un admirable texte sur la lamentation d'Adam chassé du paradis, comme exemple de l'esprit de componction, de brisement du cœur qui doit animer le chrétien. Cette nostalgie du paradis qui est un aspect important de notre vie spirituelle et notamment pendant le carême. Puis, après ce dimanche du pardon, et dont nous évoquons aussi l'expulsion d'Adam du paradis, nous entrons dans le carême proprement dit. Comme je vous le disais tout à l'heure, la tonalité de fond du carême peut être caractérisée par ce que le père Schmemann appelle la radieuse tristesse. Et je vous lis ici deux pages du père Schmemann qui évoquent admirablement, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même, cet esprit du temps du carême. Pour beaucoup de chrétiens orthodoxes, peut-être pour la majorité d'entre eux, le carême consiste en un certain nombre de règles et de prescriptions formelles, surtout négatives. Abstention de certaines nourritures, défense de danser, peut-être aussi privation du cinéma. Nous sommes si loin du véritable esprit de l'Église qu'il est presque impossible de comprendre qu'il y a dans le carême quelque chose d'autre. Quelque chose sans quoi toutes ces prescriptions perdraient une grande partie de leur sens. Le mieux qu'on puisse dire de ce quelque chose d'autre, c'est qu'il est comme une atmosphère, comme un climat dans lequel on entre. C'est avant tout un certain état d'esprit, d'âme et de cœur qui pendant 7 semaines va imprégner toute notre vie. Redisons encore ici que le but du carême n'est pas de nous imposer quelques obligations extérieures, mais d'attendrir notre cœur pour qu'il puisse s'ouvrir aux réalités de l'esprit, d'expérimenter une faim et une soif secrète de communion avec Dieu. Ceci est dit admirablement. Enfin, le but du carême n'est pas de nous imposer quelques obligations extérieures, elles ont leur place, elles sont nécessaires sans doute, mais le but essentiel du carême et de ces obligations elles-mêmes, de ces pratiques elles-mêmes, est d'attendrir notre cœur pour qu'il puisse s'ouvrir aux réalités de l'Esprit, au Christ, à sa parole, et expérimenter une faim et une soif secrète de communion avec Dieu. Cette atmosphère, cet état d'esprit unique, sont créés principalement au moyen de la prière liturgique, par différentes variantes introduites dans la vie liturgique de ce temps. Considérées séparément, ces variantes peuvent apparaître comme des rubriques incompréhensibles, des prescriptions de pure forme auxquelles il faut se plier. Elles communiquent l'esprit du carême. Elles nous font voir expérimenter cette radieuse tristesse qui est le véritable message et la grâce du carême. On peut dire sans exagération que le père spirituel et les auteurs qui ont composé les hymnes du triode, c'est-à-dire du livre liturgique qui est traduit en français, bien qu'on peut se procurer, et qui contient tous les textes des offices du carême, et on peut dire que ceux qui ont composé ces textes, qui ont peu à peu agencé la structure générale des offices de carême, et qui ont doté la liturgie des présanctifiés, dont je dirai un mot tout à l'heure, de cette remarquable beauté qui lui est propre, avaient une singulière compréhension de l'âme humaine. Ils connaissaient vraiment l'art du repentir. Et chaque année, pendant le carême, ils rendaient cet art accessible à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. L'impression générale de ces offices, ai-je dit, est celle d'une radieuse tristesse. Quelqu'un qui, même à une connaissance réduite de la vie liturgique, entrerait à l'église durant un office de carême, comprendrait presque tout de suite, j'en suis sûr, cette expression assez paradoxale. D'une part, une sorte de calme tristesse imprègne l'office. Les vêtements sont de couleur sombre, les offices sont plus longs et plus monotones qu'à l'ordinaire. Les lectures et les chants alternent et rien ne semble se produire. Ainsi, durant un long moment, nous sommes là, debout dans cette monotonie, dans cette calme tristesse. Mais c'est alors que nous commençons à réaliser que cette longueur même et cette monotonie sont nécessaires pour que nous soyons à même d'expérimenter l'action secrète et d'abord imperceptible que cet office exerce sur nous. Ceci est vrai de tous les offices monastiques, c'est pour ça qu'il est toujours bon par exemple pendant le carême, de pouvoir participer à quelques offices dans un monastère où on a la possibilité d'observer dans son ensemble le typicon, enfin toutes les règles, tous les offices du temps du carême. C'est comme si nous abordions en un lieu où les bruits et l'agitation de la vie, de la rue, et de tout ce qui habituellement remplit nos journées, même nos nuits, n'ont aucun accès, aucune emprise. Tout ce qui nous semblait tellement important que nous en avions l'esprit rempli, cet état d'anxiété qui nous est devenu comme une seconde nature, tout cela s'évanouit, et nous commençons à nous sentir libres, légers et heureux. Ce n'est pas le bonheur bruyant et superficiel qui apparaît et disparaît 20 fois par jour et qui est si fragile et fugitif. C'est un bonheur profond qui n'a pas de motif précis et particulier, mais qui naît de ce que notre âme, selon le mot de Dostoïevski, a touché un autre monde. Ce qu'elle a touché est fait de lumière, de paix et de joie, d'une confiance inexprimable. Nous comprenons alors pourquoi les offices se devaient d'être longs et apparemment monotones. Et ces offices, ainsi marqués de joyeuse tristesse, s'accompagnent évidemment de la pratique du jeûne, proportionnée aux forces et aux possibilités de chacun, bien sûr, mais qui est l'une des caractéristiques, certainement, dans toutes les traditions liturgiques, du temps du carême. Mais là, le père Schmemann nous fait remarquer avec justesse que le jeûne a un double sens dans l'Église. Il y a comme deux manières de jeûner. Et ceci apparaît dans toute la tradition chrétienne. Il y a une façon de jeûner qui consiste dans un jeûne total, une abstinence de nourriture et de boissons complète. Et le second est ce qu'il appelle un jeûne ascétique. Vous allez voir, et qui est un jeûne alors qui ne porte que sur la qualité plutôt de la nourriture que l'on prend. Le jeûne total, le fait de ne pas manger du tout, de sa nature même, est de courte durée, et généralement limité à un jour, ou même plutôt à une partie de la journée. Dès le début du christianisme, il fut compris comme un état de préparation et d'attente. Le fait, un jour donné, de ne pas manger du tout, apparaissait ainsi comme une préparation, une attente de quelque chose, après quoi alors on rompra le jeûne. Il était compris comme un état de concentration spirituelle sur quelque chose qui va arriver. La faim physique correspond ici à l'attente spirituelle de l'accomplissement, à l'ouverture de tout l'être à la joie qui approche. C'est pourquoi, dans la tradition liturgique de l'Église, nous trouvons ce jeûne total comme dernière et ultime préparation à une grande fête, à un événement spirituel décisif, par exemple aux veilles de Noël et de l'Épiphanie. Et surtout, c'est ce jeûne qui constitue le jeûne eucharistique, mode essentiel de notre préparation au banquet messianique, à la table du Christ dans son royaume. L'Eucharistie est toujours précédée de ce jeûne total, qui peut varier dans sa durée, mais qui, pour l'Église, constitue une condition nécessaire à la Sainte Communion. Donc le jeûne apparaît une manière de vivre avec tout notre être, avec notre corps lui-même, pas seulement avec notre esprit, notre cerveau, n'est-ce pas, mais avec tout notre être, une attitude d'attente, une attitude de concentration et de tension vers quelque chose à quoi nous voulons nous rendre totalement disponibles. Et c'est le sens du jeûne eucharistique. Et c'est le sens, par conséquent, par exemple, du jeûne des mercredis et vendredis de carême, où, lorsqu'on peut célébrer la liturgie, enfin, les offices selon toute la tradition orthodoxe, sont marqués par ce qu'on appelle la liturgie des présanctifiés. C'est-à-dire une liturgie qui n'est pas une messe, au sens courant du mot, c'est-à-dire une communion de la résurrection du Christ, mais simplement un office de communion. Car, dans la tradition orthodoxe, la liturgie eucharistique proprement dite, ce qu'on appelle en Occident la messe, c'est ça, la liturgie eucharistique a toujours un caractère festif. Car dans la liturgie eucharistique, ce que nous célébrons, ce n'est pas simplement la mort du Christ, ce n'est pas seulement la souffrance du Christ et la croix, mais c'est aussi et inséparablement, et plus encore, sa résurrection. Et c'est pour cela que nous le célébrons, la liturgie eucharistique, que le dimanche, ou au moins quand il y a une fête de saints, mais on ne la célèbre pas les jours qui ont un caractère marqué de repentir, de pénitence, comme les jours de carême. Et en carême, par conséquent, on ne va pas souligner les fêtes de saints qui tombent en semaine pour garder ce caractère pénitentiel, et par là même, il n'y aura pas, durant la semaine, sauf pour quelques fêtes exceptionnelles, très importantes, comme l'Annonciation, comme le 25 mars, il n'y aura pas habituellement en semaine de liturgie eucharistique. Mais on communie cependant, parce que la communion n'est pas seulement un moyen de participer à la résurrection du Christ eucharistique, c'est un moyen de recevoir le Christ en nous comme viatique, comme aliment spirituel, comme aliment divinisant, pour nous donner la force de poursuivre notre chemin vers Dieu. Et c'est pour cela qu'au cours des semaines de carême, quand il n'y a pas de liturgie eucharistique, il y a cependant un office de communion. Actuellement, dans la section d'église, on le célèbre les mercredis et vendredis, mais il y a eu des époques où on le célébrait même plus souvent en carême. Il n'y a pas d'obstacle en soi. Et alors, ces jours-là, il y a un jeûne eucharistique qui est une préparation, qui est une abstinence totale de nourriture, qui est une préparation à cette communion. Comme avant toute liturgie, nous avons un temps de jeûne eucharistique pour nous y préparer, de jeûne total pour nous préparer à la liturgie et à la communion. Mais pendant tout le carême, alors même les jours où il n'y a pas de communion, où il n'y a pas de liturgie dite des présanctifiés, c'est-à-dire des dons qui ont été consacrés à la liturgie du dimanche pour être distribués dans la semaine, même ces jours-là, il y a un jeûne, mais alors qui est ce que le Père Schumann appelle le jeûne ascétique, qui n'est pas un jeûne dont le rôle est de nous préparer à l'Eucharistie, de nous préparer à la communion, mais c'est un jeûne, je dirais, médicinal. Et ce jeûne qui va durer tout le carême, au point que même les dimanches qui gardent dans le carême leur caractère festif, leur caractère de célébration de la résurrection, même le dimanche, on ne jeûnera pas. L'Eucharistie a lieu le matin et ensuite on ne jeûne pas au sens de l'abstinence totale de nourriture, mais on s'abstiendra, même ces dimanches de carême, on s'abstiendra toujours, sauf le jour de l'Annonciation, par exemple le dimanche des Rameaux, qui sont des fêtes encore plus importantes, même de poisson et en tout cas de laitage, etc. Donc on gardera, même ces dimanches-là, une alimentation de caractère quadragésimal, ayant le caractère des jours de carême. Mais il y aura deux repas et il n'y a pas on ne retarde pas le repas jusqu'à une heure tardive comme dans les jours de semaine. Ce sont quand même des jours festifs. Mais on ne veut pas ici interrompre quand même cet effort ascétique qui a besoin de durer pour porter des fruits. Comme dit le Père Schumann, ici le but du jeûne est de libérer l'homme de la tyrannie déréglée de la chair qui s'établit lorsque l'esprit cède devant le corps et ses appétits, résultat tragique du péché et de la chute originelle de l'homme. C'est seulement par un lent et patient effort que l'homme découvre qu'il ne vit pas seulement de pain et restaure en lui-même la primauté de l'esprit. C'est nécessairement et de par sa nature même un effort soutenu, un long effort soutenu. Le facteur temps est essentiel, car il faut du temps pour déraciner et guérir la maladie commune et universelle que les hommes ont fini par considérer comme leur état normal. L'art du jeûne ascétique a été affiné et perfectionné à l'intérieur de la tradition monastique, puis adopté par l'Église entière. Il est l'application à l'homme des paroles du Christ, disant que les puissances diaboliques qui asservissent l'homme ne peuvent être vaincues que par la prière et par le jeûne. Il est fondé sur l'exemple du Christ lui-même qui jeûna 40 jours, puis rencontra Satan face à face et, dans cette rencontre, détruisit la sujétion de l'homme aux nourritures terrestres, inaugurant ainsi la libération de l'homme. C'est parce qu'il faut, là, il est nécessaire d'entrer dans un long effort, n'est-ce pas, qu'on n'interrompra pas ce jeûne ascétique du carême le dimanche, malgré le caractère festif du dimanche. Durant tout le carême, nous aurons ainsi un régime plus austère que pendant le reste de l'année. Alors bien sûr, les fidèles sont obligés de l'adapter à leurs possibilités, aux conditions de vie concrètes qui sont les leurs, ça c'est d'avoir les affaires spirituelles et le prêtre de leur paroisse, mais chacun tend tout de même à faire quelque chose pour marquer sa vie de cet aspect de jeûne durant le carême. Vous savez qu'il y a trois autres périodes de jeûne, trois autres carêmes dans l'année que le grand carême devrait faire à Pâques. Il y a le carême des apôtres après la Pentecôte, pour marquer le retour au jeûne, justement après le temps pascal, qui est une période où les règles du jeûne sont assouplies, sont plus ou moins relâchées pour marquer la joie pascale, mais ensuite on revient à une pratique de la suite du jeûne, et c'est marqué par le carême des apôtres, qui commence le dimanche, après le dimanche de tous les saints, donc aussitôt après la cinquantaine pascale, qui est achevée par la Pentecôte et la fête de tous les saints. Il y a le carême qui nous prépare à la fête de la Dormition, de la Mère de Dieu le 15 août, donc les 15 premiers jours du mois d'août, et puis le carême de préparation à Noël. Ce sont des carêmes qui ont un caractère moins strict, avec une exigence un peu moindre, que le grand carême qui nous préparant à Pâques, qui est vraiment le cœur de la liturgie, a un aspect beaucoup plus fort, bien sûr. Mais cet aspect donc ascétique, cet aspect austère du carême, encore une fois, ne détruit pas son caractère de joie. C'est une radieuse tristesse, véritablement. Et bien des textes liturgiques considèrent le carême comme un printemps des âmes. Il y a de très beaux textes qui montrent l'harmonie qui existe entre ce temps du carême et la période de l'année, la période simplement de l'année cosmique, durant laquelle il se déroule, qui est le printemps. Et de même que c'est le moment où les feuilles des arbres poussent, où les arbres commencent à fleurir, etc., eh bien, le carême a ce caractère d'un printemps des âmes. Ce n'est pas encore le plein été, ce n'est pas encore la moisson, où on cueillera les fruits spirituels pendant la période pascale, mais c'est déjà un printemps. Ça a ce caractère de joie légère, n'est-ce pas, de préparation, où on sent que les choses doucement se préparent, s'éveillent, et tout cela dans une atmosphère de joie et de vie naissante. Les textes liturgiques sont très marqués par cet aspect, je dirais, printanier, cet aspect de printemps spirituel du temps du carême. Et qui lui donne cet aspect, encore une fois, radieux, ce caractère joyeux auquel ne s'oppose pas du tout l'aspect pénitentiel. Et justement, pendant le carême, très souvent tombe la fête de l'Annonciation de la Mère de Dieu, la fête du 25 mars, qui est l'annonce de l'incarnation du Christ. Au premier aspect, ça nous transporterait dans un autre registre spirituel que la préparation à Pâques, mais finalement, Pâques est l'accomplissement de l'incarnation. Pâques, c'est l'incarnation portant tous ses fruits, arrivée à son ultime accomplissement. Et le fait de célébrer en carême l'annonciation, l'annonce de l'incarnation, ses prémices, est en plein accord, est en pleine harmonie avec cet aspect printanier, spirituellement printanier du carême. Et justement, pendant tout le carême, alors, les vendredis soirs, on chante avec plus solennité une partie de l'acatiste à la Mère de Dieu, c'est-à-dire de ce chant qui est composé sur le thème de la salutation à l'ange Gabriel à la Mère de Dieu, mais développé en de toutes sortes d'éloges à la Vierge, à la Mère de Dieu, s'inspirant de toute la tradition des pères de l'Église. C'est un admirable texte que l'on reprend ainsi tous les vendredis soirs pendant les premières semaines du carême, et puis le samedi de la cinquième semaine de carême, alors on le chante tout entier, et tout l'office est bâti autour de cet acatiste, de cet hymne à la Mère de Dieu, qui développe ainsi la salutation de l'ange, « Réjouis-toi, je te salue Marie » de l'ange Gabriel. Et il y a une sorte d'accord secret, d'harmonie entre cet aspect consacré à la Mère de Dieu dans le mystère de l'incarnation, de l'annonciation, et puis le carême comme printemps spirituel. Pendant le carême, à la fin de chaque office, nous lisons une très belle prière, la prière de Saint Éphrem le Syrien, Saint Éphrem le Syrien, qui dans la tradition de l'Église est vraiment le père qui a le père de l'Église, le saint père de l'Église, qui a le plus insisté sur la componction du cœur, sur cette radieuse tristesse justement du cœur qui est brisée par le souvenir de son péché, mais en même temps réchauffée et consolée par la pensée de la miséricorde divine. Je l'ai lu tout à l'heure à la fin de l'office justement. Voici le texte de cette prière tel qu'il se trouve dans la tradition russe. Il y a des petites variantes dans la tradition grecque, ça a un peu d'importance. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage. Et là, on fait une profonde métanie, une profonde prostration. Mais fais-moi la grâce, à moi ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Elle résume au fond tout ce que nous avons à perdre et à acquérir pendant le carême. Et finalement, elle résume tout dans cette attitude, n'est-ce pas, d'humble amour du prochain, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Le carême est aussi une période où nous lisons et relisons la parole de Dieu, les textes bibliques. D'une part, pendant les offices de carême, la lecture des psaumes prend un plus grand développement. Là où on peut célébrer tout l'office dans sa totalité, le psautier est lu deux fois chaque semaine au cours des offices. Les 150 psaumes de David sont lus deux fois. Et puis, alors, l'un des textes les plus caractéristiques du grand carême est ce qu'on appelle le grand canon de Saint-André de Crète. Ce grand canon, composé par l'hymnographe Saint-André de Crète, qui vivait, je crois, au 7e siècle, est un texte vraiment admirable, long, qui reprend, au fond, tout l'Ancien Testament, à peu près tous les épisodes, en les résumant, bien sûr, de l'Ancien Testament, et en les appliquant à notre vie spirituelle. En nous montrant, je ne sais pas, que Adam et Ève, n'est-ce pas, qui cèdent à la tentation, c'est nous. Que Caïn qui tue son frère Abel, c'est nous, finalement. Et ainsi, on revit tous les épisodes, et on évoque tous les personnages de l'Ancien Testament pour nous montrer que tout cela, nous le revivons nous-mêmes, n'est-ce pas, et que les sentiments de repentir qui les animaient, n'est-ce pas, nous devons les revivre à notre tour. Tout ce grand canon Saint-André de Crète est bâti sur ce thème et on le chante d'abord par partie, un quart à chaque fois à peu près, pendant les premiers jours de la première semaine de carême, à l'office des complis, le soir, des grandes complis le soir, et il nous fait entrer déjà dans le mieux qu'aucun texte, dans l'esprit du carême, et puis le jeudi de la cinquième semaine de carême, donc nous y arrivons, alors tout l'office du matin, tout l'office des matines, contient la totalité de ce grand canon, de ce grand poème de Saint-André de Crète. C'est admirable parce que tout au long de ce très long texte, nous relisons en quelque sorte toute l'Écriture sainte pour la relire d'une perspective chrétienne et en l'appliquant à notre vie d'aujourd'hui. C'est une admirable leçon de lecture biblique et d'intériorisation de l'Ancien Testament et de toute la tradition biblique. Je vous signale qu'il y a un très beau livre d'Olivier Clément dans la collection Théophanie chez Descartes Brouwer qui s'appelle, si je me trompe, Le Chant des Larmes et qui vous donne le texte intégral de ce grand canon de Crète avec un très beau commentaire. C'est un très bon livre. Il peut nous aider beaucoup à entrer dans l'esprit du carême. En plus des deux livres de Schumann que vous signalez tout à l'heure, vous pourriez avoir ce livre et le lire pendant le carême. Vous pourriez ainsi vivre vraiment en communion d'esprit avec l'Église sans avoir la possibilité d'assister à tous les offices. On peut en lire un peu chaque jour, n'est-ce pas, même pendant tout le carême, et c'est très très bénéfique. Je n'ai pas fait allusion jusqu'ici au dimanche du carême, au dimanche de carême, car en fait, dans la tradition orthodoxe, il n'y a pas à véritablement parler de dimanche de carême, puisque le dimanche est toujours une célébration pascale, c'est toujours le mystère de Pâques que nous évoquons chaque dimanche, même pendant le carême, ils nous orientent vers Pâques, ça nous y achemine, et ils n'ont pas le caractère pénitentiel des autres jours de la semaine, même si, d'une certaine manière, le jeûne, d'une certaine forme de jeûne continue ces jours-là, pour ne pas briser le rythme du jeûne de carême. Mais tous les dimanches de carême sont un peu comme une parenthèse dans les textes du carême. Ils n'ont plus ce caractère de componction, de radieuse tristesse, mais sont beaucoup plus axés déjà sur la célébration de la résurrection. Et donc, puisqu'ils n'ont pas un caractère strictement de carême, n'est-ce pas, l'Église les a consacrés à un certain nombre de thèmes qui sont en harmonie avec le carême, mais qui ne sont pas strictement tout de même, qui n'entrent pas strictement dans le cadre du carême lui-même. Par exemple, le premier dimanche de carême, nous célébrons la restauration du culte des saintes icônes, après la grande persécution iconoclaste, où les empereurs byzantins avaient interdit le culte des icônes et martyrisé une multitude de leurs défenseurs. Et en fait, ce qu'on célèbre là, ce n'est pas simplement la restauration du culte des saintes icônes, mais parce que cette restauration du culte des icônes marquait comme le triomphe définitif de l'Église sur toutes les hérésies christologiques, toutes les grandes hérésies des premiers siècles. Car ceux qui s'attaquaient au culte des icônes, finalement, d'une certaine manière, s'attaquaient au dogme même de l'incarnation. Parce que si on n'admet pas que nous puissions représenter le Christ en tout premier lieu, et puis bien sûr les saints, la Mère de Dieu et les saints qui sont comme le prolongement du Christ, comme son reflet, mettons à ce dimanche donc le triomphe de la vérité, de la tradition des apôtres sur toutes les erreurs doctrinales qui sont apparues dans les premiers siècles. Mais ceci a une portée profondément spirituelle, car précisément notre effort de carême lui-même, toute notre ascèse, toute notre vie chrétienne n'a de sens que si le Christ est véritablement fils de Dieu, et si le fils de Dieu est égal au Père, et que le Christ incarné est véritablement Dieu et homme. Si on nie cela, c'est tout le christianisme, c'est toute la vie chrétienne qui s'effondre. La vie chrétienne n'est pas un simple moralisme, une simple spiritualité, mais c'est la conséquence directe de la divinité du Christ et de son incarnation plénière, oui, pleinement Dieu et pleinement homme. Et en dehors de ce fondement, il n'y a pas de vie spirituelle chrétienne possible. Par conséquent, de fêter le premier dimanche de carême la plénitude, si vous voulez, du dogme orthodoxe, la tradition apostolique de la foi, fonde dogmatiquement tout notre effort de carême. Fait que ce ne sera pas un simple piétisme, une simple spiritualité détachée de toute conviction théologique, mais que ça simplement la mise en œuvre de la foi de l'Église dans notre vie. Et donc c'est très important sous ce rapport-là. Le dimanche suivant est consacré à la mémoire de Saint Grégoire Palamas. Et Saint Grégoire Palamas a été le grand défenseur au XIVe siècle à la fois de la tradition, ce qu'on appelle la tradition hésica, c'est-à-dire la tradition spirituelle la plus intérieure de l'Église, de la possibilité pour l'homme de participer véritablement à la nature divine, mais sans pour autant que le mystère de l'essence divine soit dévoilé. Dieu reste mystère, Dieu reste imparticipable dans le secret de son essence, mais en même temps il se communique réellement à l'homme et nous divinise réellement. Par conséquent, cette doctrine de savoir Palamas, qui a été adoptée, canonisée par l'Église au XIVe siècle, prolonge la doctrine des conciles précédents, et comme on peut dire, le dernier saut, le dernier accomplissement du grand effort doctrinal, dogmatique des pères de l'Église. Et il nous révèle que notre effort de carême, eh bien, nous oriente vers cette participation à la vie divine, vers cette vision de Dieu, de la lumière incréée, dont Saint Grégoire Palamas a exposé, a développé les fondements théologiques. Donc c'est un peu le même sens, si vous voulez, que la séquence de l'orthodoxie le dimanche précédent, c'est de nous montrer combien toute notre vie chrétienne, et en particulier toute notre ascèse de carême, ne prend de sens que par référence à l'intégrité de la foi apostolique, telle qu'elle a été comprise, telle qu'elle a été développée par toute la tradition de l'Église durant, pour Saint Grégoire Palamas, les 14 premiers siècles. Le troisième dimanche de carême est le dimanche de la croix, le dimanche de la vénération, de l'adoration de la croix, que nous célébrons comme l'instrument de la victoire du Christ, mais un instrument, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà tout nimbé de la lumière de Pâques. C'est vraiment l'instrument de la victoire. Ce n'est pas seulement l'instrument du supplice du Christ, mais c'est aussi l'instrument de sa victoire. Et la célébration de la croix, la célébration dominicale de la croix, est en même temps toute remplie de la lumière de la résurrection. et vous voyez comment elle aussi éclaire doctrinalement, dogmatiquement notre effort de carême. Les deux dimanches suivants leur ont un caractère un peu particulier parce qu'ils sont consacrés non plus à nous pénétrer des fondements doctrinaux, théologiques, si je puis dire, dogmatiques de notre vie chrétienne, mais ils nous proposent le premier, l'enseignement d'un maître spirituel remarquable, qui est peut-être le plus grand maître d'assaise de la religion orthodoxe, Saint Jean Climax, Saint Jean de l'Échelle, qui a écrit un livre, intitulé L'Échelle spirituelle, qui était un moine du Mont Sinaï, et qui a écrit donc cette échelle du ciel, cette échelle du paradis, dans laquelle il résume, il condense tout l'enseignement spirituel alors des pères du désert et des grands maîtres spirituels de l'ascèse chrétienne antérieure. Cette échelle de Saint Jean Climat, que l'on lit d'ailleurs dans les monastères pendant les offices ou réfectoires pendant tout le carême, est comme le condensé de toute la doctrine spirituelle de l'Église orthodoxe. Et ce dimanche, l'Église, en vénérant spécialement Saint Jean Climac, nous le présente comme le maître spirituel le plus sûr pour nous guider dans notre effort de conversion intérieure. Et le dimanche suivant est consacré à la mémoire de Sainte Marie l'Égyptienne, qui elle n'a rien écrit. C'est une sainte, début 6e siècle, dont la vie nous a été transmise par Saint Sophrone, patriarche de Jérusalem, mais Sainte Marie l'Égyptienne est un admirable modèle alors de pénitence, d'ascèse, un modèle idéal, n'est-ce pas, une sorte d'icône que l'Église dresse devant nous pour nous inciter au repentir et à la pénitence, sans chercher à l'imiter matériellement, mais c'est une figure extrêmement évocatrice et extrêmement séduisante de l'ascèse, de la pénitence, du repentir. Et nous sommes ainsi acheminés vers le dimanche des palmes, le dimanche des rameaux, qui est précédé par le samedi de la résurrection de Lazare, qui déjà est comme une annonce par anticipation de la résurrection. Et avec le dimanche des palmes, nous entrons alors dans la grande semaine, dans la semaine sainte, où nous allons participer pas à pas à toute la passion du Christ pour, dans la nuit pascale, déboucher dans le mystère plénier de la résurrection. Donc vous voyez ainsi comment toute cette liturgie pascale, toute liturgie du carême est déjà une liturgie pascale, une liturgie de préparation pascale, qui nous fait entrer dans admirablement, avec une pédagogie extraordinaire, dans ce mystère de mort et de résurrection auquel la fête de Pâques nous fait participer. Donc je vous conseille de lire ces trois livres dont je vais parler, enfin, le Grand Carême, le Mystère Pascal, et puis le Grand Canon, le Chant des Larmes, qui vous aideront beaucoup à approfondir tout cela. Avez-vous des questions ou des précisions à demander ?
Il y aurait unification des dates de Pâques, l'Église orthodoxe et des autres églises.
Vous savez, on en parle depuis très longtemps, mais c'est assez difficile à réaliser parce que ça met en jeu beaucoup de choses différentes, n'est-ce pas? Et en particulier dans l'Église orthodoxe, la chose, on ne peut pas toucher à la date de Pâques par décision d'une autorité, n'est-ce pas? Il faut, la date de Pâques est quelque chose qui fait partie de la tradition de l'Église et qui est ressentie par l'ensemble des fidèles. Elle a été fixée selon les normes du Concile de Nicée sur lesquelles on peut parvenir, et par conséquent, c'est une question extrêmement délicate. Donc je ne pense pas que cette unification puisse être réalisée facilement.
Je l'avais entendu à la radio le dimanche consacré à l'Église orthodoxe. Il y avait, paraît-il, une erreur de calcul des heures cosmiques, enfin, je sais pas, qui permettent de calculer les jours de Pâques, et que cette erreur était déjà prise en compte dans l'Église
C'est un problème qui est très 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 délicat parce que le tout est de savoir que comment on envisage le calendrier. En fait, le calendrier est évidemment fondamentalement une réalité astronomique. L'équinoxe de printemps n'est pas une date qui est fixée arbitrairement, mais elle correspond au moment où les jours et les nuits sont égaux, n'est-ce pas? Mais d'autre part, c'est lié au cycle lunaire, c'est lié à un tas d'autres choses, si bien que le calcul qui sert de base à la Pâque orthodoxe, si du point de vue astronomique il n'est pas parfaitement juste, est en même temps lié à beaucoup d'autres choses qu'on risquerait de sacrifier en changeant la date. Si bien que, dans l'ensemble, le peuple orthodoxe, je sais, n'est pas favorable à une adoption pure et simple d'une date de Pâques qui serait plus juste astronomiquement. Il n'est pas exclu que l'ensemble des orthodoxes puissent un jour ressentir la nécessité d'avoir une date plus exacte de Pâques que ce qu'ils ont actuellement, mais ce ne sera pas non plus la date, nécessairement la date actuellement en usage en Occident, parce qu'il y a d'autres éléments à considérer, voyez-vous. Mais évidemment, au siècle prochain, alors qu'actuellement, entre ce qu'on appelle le calendrier julien et le calendrier grégorien, il y a actuellement 13 jours d'écart, au siècle prochain, il y aura 14 jours d'écart. Donc ça amènera à réviser certaines choses peut-être, mais en tout cas, une solution dans ce domaine ne pourrait être prise que par un accord de l'ensemble du peuple orthodoxe. Et on n'en peut pas du tout envisager qu'une commission de spécialistes, par exemple, prenne une décision qui sont ensuite notifiés simplement par voie d'autorité, sans qu'il y ait une sorte d'accord complet de tout le corps de l'Église sur ce sujet. Et comme je vous le dis, ça met en jeu beaucoup de choses qui sont complexes, délicates, et ce n'est pas un problème simple. Oui. Oui.
Pendant les carêmes, vous avez dit tout à l'heure que chez les orthodoxes, nous avons le droit de manger ceci, mais pas manger cela. C'est peut-être assez intéressant que vous expliquiez un peu plus en détail. C'est que ce n'est pas une question de droit, c'est une question que chez nous, les orthodoxes, vous savez bien mieux que moi, que vous pouvez bien le dire, disons, qu'il y a l'acrivia, l'exactitude et l'économie.
Oui.
Et la tolérance, disons. Et l'orthodoxie nous montre ce que nous devons faire, mais à chacun, selon l'estimation de son père spirituel, il lui autorise de faire ce qu'il peut.
Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, d'abord, il ne s'agit pas de normes fixées par une autorité qui les imposerait. On peut dire que c'est l'ensemble du peuple orthodoxe qui est un peuple bien sûr structuré avec ses pasteurs et ses évêques, mais enfin c'est l'ensemble du peuple orthodoxe qui au cours des siècles a senti que pour bien se préparer à Pâques, eh bien la meilleure préparation était une austérité dans l'alimentation qui amenait à supprimer l'huile d'olive, les laitages, les œufs, la viande bien sûr en premier lieu, donc une nourriture surtout essentiellement à base de légumes. Les fruits de mer, par exemple, sont autorisés, les coquillages, mais pas le poisson, sauf, comme je vous le disais, pour la fête de l'Annonciation et le dimanche de Pâques. Mais ce n'est pas une casuistique imposée par l'autorité. Voyez-vous, ce sont des coutumes qui sont assumées par l'ensemble du peuple orthodoxe depuis des générations et des siècles. Mais alors, il est bien évident que les civilisations changent, les conditions où chacun vit changent, et ceci reste un idéal, reste une norme vers laquelle l'Église nous oriente, mais chacun voit ce qu'il peut faire et le voit avec le conseil de son père spirituel pour ne pas rester dans l'arbitraire. Mais récemment, la question a été posée à laquelle vous savez qu'il y a des réunions dites préconciliaires qui préparent un concile qui aura lieu je ne sais pas quand dans l'Église orthodoxe, mais les réunions préconciliaires sont encore plus importantes que le concile. Et dans ces réunions préconciliaires a été traitée la question du jeûne et d'une adaptation éventuelle des règles du jeûne. Et la réponse de tous les évêques qui ont participé à ces réunions a été qu'ils estiment qu'on n'a pas à changer les règles du jeûne parce qu'elles ont leur sens et ne sont pas quelque chose d'arbitraire qui a été imposé comme cela de l'extérieur. Mais d'autre part, qu'il est évident que chaque pasteur, chaque père spirituel peut les adapter dans les circonstances particulières dans lesquelles se trouve telle communauté ou telle personne. C'est, comme vous disiez très bien, l'acrivie, l'économie. Mais l'économie ne supprime pas la règle. Elle est simplement, elle apporte des adoucissements de l'application de la règle, eu égard aux personnes et aux cas particuliers. Mais on ne réformera pas, on ne changera pas pour autant la règle. Oui.
Mais quel est le sens de cette progression, puisque vous disiez qu'on commence d'abord par supprimer la viande,
oui.
Puis après l'élevage, et
oui.
Après autre chose.
Oui.
Quelle est la symbolique de cette progression?
Ce n'est pas tellement une symbolique, mais c'est une chose psychologique, n'est-ce pas? D'habituer les gens de ne pas passer brusquement de l'alimentation habituelle à l'alimentation, mais d'y entrer progressivement. C'est un peu ce principe de passer par des parvis, n'est-ce pas? De préparer les gens doucement à changer d'état intérieur en même temps que de comportement extérieur. Oui.
Et
alors, pendant la semaine, qui est le dimanche du pharisien et du publicain, le jeûne est totalement suspendu. Pour bien montrer, justement, que le jeûne n'est pas l'essentiel. Voyez-vous, que le jeûne n'est pas un absolu, une valeur en soi. Et que l'humilité l'emporte sur le jeûne. Là aussi, c'est pédagogique, n'est-ce pas? C'est pour bien montrer le primat de l'humilité. Donc, pendant une semaine, on va supprimer le jeûne complètement, même le mercredi et vendredi, alors qu'on jeûne tous les mercredis et vendredis de l'année. Mais pour bien montrer, le mettre à sa place, n'est-ce pas, et ne pas tomber dans le défaut du pharisien.
Est-ce que vous pourriez développer un peu la doctrine des énergies divines qui a été défendue par
vous? Ça demanderait toute une conférence. C'est un sujet assez délicat, assez subtil, mais l'élément essentiel, cette doctrine, donc de la distinction entre essence divine et énergie divine, et qui a été un progrès doctrinal, parce que ça a toujours été la tradition de l'Église, on trouve chez les pères les Saint-Basile, mais ça a été formulé d'une façon beaucoup plus, plus précise et plus explicite par Saint-Edouard Palamas au XIVe siècle. Alors l'idée fondamentale, c'est que, si je peux m'exprimer ainsi, de façon un peu anthropomorphique, il y a en Dieu, si vous voulez, une profondeur, une richesse d'être, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre et de tout ce à quoi nous pouvons participer en Dieu. Dieu est inépuisable, Dieu est toujours au-delà de ce qu'il peut nous communiquer de son être, de sa vie, d'une part. En ce sens-là, on dit que l'essence divine est incompréhensible, imparticipable, inconnaissable. Mais d'autre part, Dieu a décidé librement de se communiquer véritablement à nous, de se faire connaître, et de nous communiquer sa propre vie, de nous faire participer véritablement à son être, de nous diviniser, nous déifier réellement, de nous donner une grâce qui n'est pas une simple imitation, une réalité créée qui imiterait la nature divine, ce qui ne signifie pas grand-chose, mais une véritable participation à sa nature, c'est une véritable participation à son rayonnement, un peu comme le cristal est pénétré par l'éclat de la lumière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la grâce. Et alors, c'est ce rayonnement, c'est cette participation à Dieu qu'on appelle les énergies, qui n'épuisent jamais l'être de Dieu. Dieu ne fera jamais de nous des dieux égaux à lui. Il y a forcément un écart entre Dieu et nous, et nous ne pourrons pas épuiser le mystère de Dieu, ni dans notre connaissance, ni dans ce que nous participons. Mais d'autre part, nous connaissons réellement Dieu parce qu'il nous révèle de lui, et nous participons véritablement à son être, à sa vie, par la grâce, par le don qu'il nous fait de ses énergies. Voyez-vous, c'est cela l'essentiel de la doctrine. Et donc, au fur et à mesure que nous renonçons à notre moi, notre égoïsme, par toute la cesse, par tout l'effort de notre liberté, avec l'aide de la grâce, eh bien, nous participons davantage à cette vie divine. Et les saints sont de parfaits reflets de Dieu, parce qu'ils sont justement comme un cristal très pur qui est entièrement pénétré de la lumière divine, ou comme un charbon ardent, c'est-à-dire qui est tout pénétré du feu de la divinité. C'est cela l'essentiel de cette doctrine, de savoir pas la masse.
L'énergie qui n'a rien de matériel.
Ah bien sûr, ça n'a rien de matériel, c'est une réalité spirituelle et divine, mais très, très réelle cependant. Oui. Il ne faut pas s'imaginer comme un courant électrique, une chose comme ça, un fluide, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui.
ça, pour revenir sur l'unité, est-ce qu'il vous serait possible de préciser un peu plus concrètement l'importance qu'a l'unité justement dans la période qu'on traverse?
Oui. Mais vous savez, l'humilité, de toute manière, on peut dire la base et puis le climat de toute la vie spirituelle. L'humilité, il consiste justement à être parfaitement conscient que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, surtout dans ce domaine de la participation à la vie divine, n'est-ce pas ? Que tout ce que nous pouvons faire, c'est de la désirer profondément, de faire des efforts pour répondre à la grâce de Dieu, que devant les autres, nous ne pouvons nous glorifier de rien, de renoncer à tout esprit de domination, d'orgueil, etc., à l'égard des autres, mais surtout en face de Dieu. Les choses se tiennent d'ailleurs, n'est-ce pas ? Si on est orgueilleux envers les autres, on ne sera pas humble en face de Dieu. Nous prendrons l'attitude intérieure du pharisien plutôt que celle du publicain. Mais ce n'est pas une attitude dépressive, ce n'est pas parce que, en même temps, elle est toute pénétrée de confiance, de la certitude d'être aimée par Dieu, et par conséquent, d'un côté, nous sentons toute notre incapacité, toute notre indignité, mais en même temps, nous avons la certitude que Dieu nous aime et que Dieu nous donnera et nous communiquera sa force de la manière qu'il voudra et quand il voudra. Alors, d'un côté, nous tenons notre âme dans ce sentiment de notre faiblesse, de notre péché, de notre incapacité, mais en même temps avec une immense confiance dans la possibilité d'être transformé par la grâce de Dieu et la certitude que Dieu nous aime et nous attend comme le père de l'enfant prodigue. C'est l'attitude de l'enfant prodigue qui, d'un côté, est bien conscient de s'être éloigné de son père, d'avoir été indigne de ses dons, de sa bonté, etc., et qui, en même temps, n'est-ce pas, est accueilli par le père avec tout son amour et toute sa tendresse. Ce sont des textes évangéliques du pharisien publicain, de l'enfant prodigue, je pense, qui, si nous les méditons, si nous les ruminons véritablement, peuvent nous faire entrer dans cette attitude. Et comme disent les pères, l'humilité elle-même, n'est-ce pas, ne s'apprend pas, c'est un don de Dieu, mais on peut s'y préparer. Et les pères nous disent souvent que l'un des meilleurs moyens de nous y préparer, ce sera de ne pas essayer d'imposer notre volonté aux autres, de ne pas nous préférer aux autres, de ne pas chercher notre intérêt plutôt que celui des autres. Et oui, il y a une manière de se comporter en face du prochain qui concrètement nous fait vivre l'humilité et qui petit à petit transformera notre cœur.
Ça sent les chrétiens, pas seulement au cas des jeunes, mais au cas général de la vie spirituelle, de l'application, de la précision ou de l'économie.
Vous savez, là, bon, évidemment, si on est isolé, il faut essayer à ce moment-là de voir quelle est la volonté de Dieu, de mesurer ses forces et puis de faire ce que l'on peut, après avoir prié, après avoir demandé à Dieu de nous éclairer. Mais le mieux est toujours de demander conseil à un père spirituel, d'expliquer un peu notre situation, nos difficultés, et puis de se laisser conduire, de se laisser guider. Mais les pères disent que si on n'a pas de père spirituel, si on n'a pas la possibilité de demander conseil, à ce moment-là, il faut prier, même prier à plusieurs reprises de tout notre cœur, et puis faire à ce moment-là ce qui, devant Dieu, nous paraît le mieux. De voir vers quoi nous sentons devant Dieu intérieurement portés et le faire. Et tout ce qui nous durcit, tout ce qui nous tend, voyez-vous, n'est pas bon, ne vient pas de Dieu, et au contraire, c'est ce qui nous laisse dans la paix. Si, par exemple, de pratiquer le jeûne intégralement vous rend vraiment insupportable, n'est-ce pas ? Bon, ben, c'est probablement qu'il faut apporter un tempérament. J'ai eu l'occasion, comme ça, une fois, de voir une excellente dame qui venait me voir un peu avant le carême, c'était 8 jours avant le carême, et me dire, mon père, je suis un peu ennuyé parce que voilà le carême qui arrive, ça. Je dis, il ne faut pas être ennuyé, c'est-à-dire, oui, je dis, écoutez, faut chacun faisant ses forces. Ah ben, vous avez, oui, seulement mon mari, il veut tout faire, absolument, mais alors, absolument tout, n'est-ce pas, il regardera s'il y a un peu une goutte d'huile dans la soupe, etc., n'est-ce pas, il est très, très scrupuleux pour ça. Je lui dis, ben oui, ben, enfin, s'il peut le faire, ça. Elle me dit, ben oui, voyez-vous, seulement l'ennui, c'est que, ben, on n'a même pas encore commencé le carême, ça commence que dans 8 jours, et déjà, il est d'une humeur massacrante. Alors, je lui ai dit de supporter son mari, mais si j'avais eu le mari en question devant moi, j'aurais dit qu'il fallait peut-être mettre une goutte d'huile dans la soupe et dans les rouages de son caractère.
Oui.